C'est un colloque, c'est le deuxième grand rendez-vous par rapport à cette histoire de Moissac. Ça marque une étape pour que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli.
Oui, c'est une des principales motivations, c'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer dans l'histoire de la France et dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire de la communauté juive à Paris qu'il oubliait l'importance de Moissac dans le sauvetage des enfants.
Il y a deux communes qui sont associées cette fois.
Il y a effectivement deux communes. La première fois, c'était Moissac, que Moissac, pour réveiller les gens de Moissac et pour nous laisser faire le reste. Et maintenant, nous faisons une rencontre avec le Chambon au lieu du sauvetage des enfants et Dieu le fit également au lieu du sauvetage des enfants, l'un en Haute-Loire, l'autre dans la Drôme, et qui ont, ces trois villes ont ensemble une histoire commune. Ils ont sauvé 2000 enfants juifs à l'époque où on nous pourchassait et où en France 75 000 enfants juifs ont été gazés, tués.
D'ailleurs, il y a des liens entre le Chambon et Moissac.
Il y a tout à fait, il y a des liens qui étaient avant moi, bien sûr, mais moi j'ai été caché au Chambon. Quant à Moissac, l'ambiance n'était pas bonne, les Allemands étaient dans la ville, on recherchait les résistants et j'étais caché chez un résistant. Et on m'a donc déplacé, mis au Chambon, on m'a fait monter, où je suis resté 3 mois, où pour moi le Chambon a été probablement salvateur, mais comparé à Moissac, c'était pas du tout la même ambiance. Moissac est cette ville du sud-ouest, accueillante, chaude, où la nourriture est abondante. Le Chambon, c'était le plateau avec de la neige, une nourriture parcimonieuse, des gens qui étaient avares de paroles. Et donc, j'ai un souvenir du Chambon qui est, comparé à Moissac, tout à fait mitigé.
Ce qu'ont réussi à faire vos parents dans cette maison à Moissac, c'est d'apporter la joie.
C'était pas un hasard. Cette maison était fondée par les éclaireurs israélites de France, dont le fondateur était un génie, qui s'appelait Castor Gamzon. Et ils avaient réfléchi déjà avant sur l'importance du groupe, l'importance du jeu et l'importance de la chorale. Ce qui a été préparé en plus, c'était « on ne laisse pas les enfants seuls ». Et le scoutisme, c'est très important pour ça, parce que une partie de ces enfants avaient déjà leurs parents déportés. Et il ne fallait pas qu'on tombe dans la nostalgie, etc. Donc on était toujours ensemble. Et d'ailleurs, un de mes amis qui sera là, pendant tout le temps où il a été à Moissac, un an et demi, tous les jours, il allait à la gare attendre son père qui avait été déporté. Pour vous dire qu'il ne fallait pas qu'on soit seul. Et ils avaient réalisé ça à Paris avant vraiment la catastrophe. Et donc, on a toujours été ensemble, on a toujours chanté et on a toujours eu des activités scouts, c'est-à-dire en groupe. Et ça, ça nous a sauvés.
C'était pas seulement pour occuper les enfants.
Non. Alors, c'était pas occuper les enfants qui vont s'ennuyer, pas du tout. C'était volontaire, le chant choral. C'était important de chanter tous ensemble et il était important d'aller tous ensemble. La seule chose qu'on faisait peut-être un petit peu chacun pour soi, c'était qu'ils avaient compris l'importance d'une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque à Moissac, dans la maison jusqu'en 1943, puis au Moulin, une grande bibliothèque avec une bibliothécaire, une dame qui s'appelait Madame Cohn, qui était extraordinaire, et on a tous beaucoup lu. Ça nous a donné un bagage important. Nos débuts intellectuels datent de la bibliothèque.
Et aussi grâce à tous les professeurs.
Quand le statut des Juifs est sorti, je crois que c'est en 1941, par le gouvernement de Vichy, tous les Juifs professeurs, fonctionnaires étaient exclus, expulsés de la fonction publique. Et donc, des professeurs à la Sorbonne, des professeurs à la Fac de Toulouse, des médecins dans les hôpitaux ont été sans travail, expulsés, et sont donc venus à Moissac. Et donc, Moissac, qui était une école où on apprenait, pour ceux qui venaient d'Allemagne, qui venaient d'Autriche ou de Pologne et qui ne parlaient pas encore le français, on a eu des professeurs remarquables, d'un niveau absolument incroyable, qui nous ont appris à lire, à écrire, etc. Une fois qu'on savait lire, écrire, compter et parler correctement le français, on nous envoyait à l'école communale Saint-Benoît, qui était de l'autre côté du pont, du Tarn, pour nous pour qu'on vive comme les autres. Le problème, c'était qu'on soit comme les autres. Voilà. Vous n'êtes pas exceptionnel. Vous êtes orphelin ou vos parents ne sont pas avec vous. Tout le monde, on est comme ça. Même moi, je vivais avec eux et je ne disais pas papa, maman pour ne pas montrer ma différence. Et jusqu'à 40 ans, enfin, j'ai toujours appelé mes parents par leur bouli, chata. Et c'était, si vous voulez, une façon de réaliser que on était tous pareils. On avait une vie commune. Mais c'est au point où, quand on se revoit 60 ans après, on revit exactement la façon dont on vivait à la maison d'enfant. C'est assez particulier. Et vous avez des gens, par exemple, un de mes amis n'arrive à manger chez lui depuis 40 ans que de la nourriture de collectivité. C'est assez étonnant parce qu'il a été marqué par ça. Et le problème, enfin, c'était pas un problème, c'était on est tous égaux, on est tous pareils. Aux chouchous, il y avait des chouchous, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu préférés des cadres. Et encore maintenant, 70 ans après, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, tiens, il y aura... Ah oui, mais elle était chouchou, encore. Donc, notre éducation a été absolument marquée de façon indélébile par cette période.
Quand on vous écoute, on sent le lien qui existe entre chacun. On ne s'est pas revu depuis 40 ans, depuis 50 ans, mais il existe ce lien finalement indéfectible.
Tout à fait. C'est un lien qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis 10 ans ou 20 ans, comme Jean-Claude Grimbert, et ça marche immédiatement, ça fonctionne immédiatement. On raisonne pareil, on a le même... J'arrive pas, je peux pas dire, ce serait prétentieux, le même humour que Jean-Claude Grimbert, qui a, lui, un humour absolument extraordinaire. Mais on fait des réflexions identiques et tous, on est comme ça. Et quand vous voyez quelqu'un, je vais à Annecy ou dans un autre endroit où il y a un ancien, je vais voir, je suis reçu comme si j'étais parti il y a 15 jours et comme s'il m'avait vu avant-hier. Et ça refonctionne pareil. On se raconte un peu notre passé. On se raconte surtout ce qu'on est devenu, mais c'est la famille.
Ce sont vos parents qui ont impulsé ça.
Je pense. C'est mes parents, avec ce mouvement réfléchi des éclaireurs israélites, qui a mis au point un système d'éducation.
Il y a eu des tas de personnalités qui sont passées par cette maison.
Oui, il y a eu des personnalités. C'était des enfants à l'époque. Il y a eu le mime Marceau, il y a eu Jean-Claude Grimbert, il y a eu Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld est resté assez peu de temps, mais il est passé par Moissac. Max Wechsler est un peintre internationalement connu. D'autres sont... Achille Kern est un peintre. Jacques Barzès est un peintre. Des écrivains, il y en a eu quelques-uns, il faut que je les retourne. Je ne parle pas d'écrivains, de ceux des enfants qui ont écrit le livre de leur vie. Ça, c'est autre chose. Mais oui, il y a eu des célébrités qui sont passées. On a eu comme ça, qui est passé à Moissac, un monsieur qui s'appelait Gogol. Gogol est un enfant qui a été à Auschwitz. Et ma mère, Chata Simon, est remontée à l'hôtel Lutetia, où arrivaient tous les déportés. Et elle a descendu à Moissac 5 enfants déportés. Et Gogol était parmi eux. Ça a été... Ce qu'il a sauvé pendant sa déportation, c'était un virtuose de l'harmonica. Et il est devenu un virtuose international de l'harmonica. Il y a eu des gens comme ça, tout à fait sortant de l'ordinaire, mais rattachés à nous. Et ces enfants qui étaient sortis d'Auschwitz, il y en a eu 2 autres, je rappelle leurs noms, Saoul et Binem, sont repartis en Israël. Ils sont âgés. Et quand on a fait, en 2013, notre première manifestation à Moissac, Shaoul est redescendu. Ça a été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Il est revenu à Moissac. Il a revécu sa vie. Il est reparti. Maintenant, il est très âgé, malade. Il a été déporté. Mais Moissac, c'est une partie importante de notre vie. Même si on est resté un an ou 6 mois, ça nous a marqué.
Ça a marqué.
Ça a marqué l'époque où un certain nombre de gens étaient déportés, etc. Et nous, on chantait. On traversait la ville de Moissac en chantant « Lève la tête, peuple d'Israël », avec la complicité, avec le silence actif des gens de Moissac. C'est moi ce que j'appelle les infrajustes. C'est-à-dire que je crois qu'un juste qui cache un enfant ou plusieurs, quand on voit, il faut qu'il y ait une complicité autour de lui dans le silence pour que ça puisse fonctionner. Et je trouve que la France, ça a été un pays d'infrajuste. Pour moi, Moissac, j'étais chez des gens légitimistes qui sont justes, qui n'avaient pas d'enfants et qui voient à 45 ans un gamin qui a 6 ans. Bien sûr que tout le monde savait que ce n'était pas l'enfant. Et c'était au point où j'ai rencontré il y a 5-6 ans une dame sur le marché de Moissac qui m'a dit « Mais toi, je te reconnais, tu es le petit Simon. Tu étais chez les Ginisti et je te voyais régulièrement parce que je travaillais à la poste. C'était aussi la femme du boulanger qui nous livrait. » Mais cette femme m'a jamais dénoncé, n'a jamais rien fait. Elle m'a dit « C'était le silence, on n'en parlait pas. » Et même après, on n'en a pas parlé. Mais donc, tous ces gens, ils étaient complices. Et je crois que c'est à l'honneur de Moissac.